RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Afterfoot, la seule émission qui a le don d'ubiquité et que vous pouvez donc écouter sur RMC et écouter et regarder également sur BFM Sport, l'After avec des horaires d'été. Nous sommes ensemble en juillet de 21h à 23h et pour vous régaler ce soir sont titulaires les deux M de la Dream Team RMC. Le premier est un spécialiste de la com. Il a la langue bien pendue et toujours à bon escient, mais sa principale qualité, c'est sans doute d'avoir le même coiffeur que moi, François Bonnard. Bonsoir.
Mais bravo Christophe, des lancements impeccables, propres et tout. Ça, t'en as dormi cette nuit, non?
Pas
c'est
vraiment,
première, on en reparlera. Il faut dire que c'est la première de Christophe Plaine.
Le deuxième M allie classe, élégance et pertinence. C'est un peu en brun ce que Jérôme Rotten est en blond. Le palmarès en moins quand même. Jonathan Macardy, bonsoir.
Bonsoir, salut. Je suis un peu vexé à se comparer à une espèce de
moi je veux bien qu'il revienne tous les soirs comme ça, s'il nous fait des lancements ou si...
C'est prévu comme
si Christophe Drouet a des petits problèmes de planning.
On est bien monsieur.
On va se retrouver tout au long de la semaine prochaine.
Nickel.
Tout va bien les garçons, vous êtes prêts à être sérieux?
Toujours, oui monsieur.
Sérieux?
Oui monsieur,
on est allez, vous êtes prêt. Sur RMC, vous êtes au bon endroit, au sommaire ce soir, la vie tranchée dans un instant de Jonathan Macardy, Mino Raiola ou l'épreuve du feu pour Jacques-Henri Hérault, on en parle dans un instant. À 21h20, la vie tranchée cette fois de François Manardeau, Bordeaux en plein flou. Est-ce finalement synonyme de nouvel échec pour les Girondins? À 21h40, les infos du jour. À 22h, focus sur Thomas Tuchel, le coach allemand, ne serait-il pas finalement la meilleure recrue du Paris Saint-Germain cette saison? À 22h20, les infos mercato du jour, les dernières indiscrétions et les coulisses pour finir. Pour participer à l'émission, appelez-nous au 3216, hashtag RMC Live ou alors le direct studio sur l'application RMC Sport. Allez, on démarre avec une petite image sympa, c'est celle de Johan Gourcuff qui a rejoint ses partenaires en stage à Divonne-les-Bains. Gourcuff qui a signé, c'est officiel depuis hier avec Dijon. On va écouter donc Johan Gourcuff, le nouveau joueur du DFCO.
Bonjour à tous, c'est Johan Gourcuff, je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte de vous retrouver pour j'espère vivre une belle saison et partager de belles victoires et de belles émotions.
Johan Gourcuff en Côte d'Or, c'est sympa ça.
Ouais, écoute, franchement, Gourcuff, ça a été un des joueurs que j'ai le plus adoré avoir évolué sur un terrain parce qu'il avait tout. Quand il était en feu à Bordeaux, la saison du titre, il avait tout. C'était un joueur qui était magnifique. Il était appelé à être, à mon sens, de la même trempe des Zidane et des Platini. Puis il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est totalement perdu. Bon, écoute, moi, j'espère juste une chose, c'est revoir par bribes un petit peu le talent qui était le sien. Après, aller à Dijon, pourquoi pas? Dijon, c'est quand même la 5e meilleure attaque de Ligue 1 l'an dernier. C'est un coach d'Aloglio qui fait super bien jouer son équipe. Je pense que dans la philosophie de jeu et la manière dont Dijon est organisé, je pense que ça peut marcher. Mais le souci, c'est qu'on disait ça aussi de Rennes. Quand il arrive à Rennes, on disait, bien, il va être avec son père et tout. Je sais pas, écoute, moi j'en attends plus rien. J'étais tellement déçu que je demande juste à voir et je serai forcément surpris.
C'est un garçon qui a pas l'amour de l'argent, qui a d'abord l'amour du jeu. Non,
tu crois pas? T'as le droit d'avoir l'amour de l'argent, il n'y a rien d'infamant en tout cas à l'avoir.
On est bien d'accord.
Les carrières sont courtes. Oui, l'amour du jeu est aussi
tu sais ça parce qu'il a refusé la Chine là par exemple
par l'éducation que son père et sa mère lui ont donné. Après par rapport à la carrière de Johan Gourcuff qui arrive maintenant à son terme, Dijon s'était aussi essayé de relancer avec Marvin Martin. Alors, toute proportion gardée parce que c'était pas le même potentiel. Il avait eu des débuts en équipe de France fracassants, mais au moins ça s'était un peu vérifié sur la durée pour Johan Gourcuff. Moins pour Martin, même s'il fait l'Euro 2012, mais il était un peu moins dans le coup. Moi, quand je l'écoute, je le retrouve. Et j'aimerais tellement... Oui, qu'il récite de nouveau ce football entre 2009 et 2010, fin 2008, 2009-2010, mais j'ai peur qu'il en soit loin. Après, il avait retrouvé son club formateur, c'est demi-échec ou échec même. Maintenant, Dijon, c'est vrai par rapport à ce que tu dis, il a un vrai coach qui a un projet de jeu, une stratégie qui fait que ce club de Dijon se maintient en Ligue 1. Des problèmes réglés en défense, mais avec Gourcuff, si ça se passe bien du côté de Johan, ça peut aussi permettre à ces Dijonais de marquer un but de plus que leur adversaire. Mais c'est vraiment tout le mal que je lui souhaite, quoi. Voilà, qui termine bien et qui retrouve un peu de sa flamme.
Tu sais ce qu'on peut espérer de lui? c'est qu'il fallait une fin de carrière à la Benjamin Nivet, tu sais. Le genre de joueur dont on sait qu'il en avait beaucoup sous la semelle, mais qui a peut-être pas donné toute l'étendue de son talent, mais juste un joueur un petit peu, tu sais, le joueur un petit peu esthétique, mais, que t'es content de voir jouer.
Mais
t'en attends pas grand chose, ouais, mais c'est juste beau à voir.
Yoann Gourcuff est à un niveau, moi, je l'ai connu comme vous tous, et puis je l'ai vu débuter en équipe de France. Il y a eu, cette période bordelaise où il est un des tout meilleur, dans les 10 meilleurs meneurs de jeu en Europe.
Allez, rendez-vous donc le 11 août prochain pour voir Yoann Gourcuff sous le maillot du DFCO. Tout de suite, c'est la vie tranchée de Jonathan McCarty.
C'est pas de la sérendipité que dire que Kanté, c'est bien plus que ça.
La sérendipité est le fait de faire une découverte scientifique de façon inattendue.
Tiens, ça t'apportera des points au Scrabble, t'inquiète pas, tu pourras le garder.
Mot compte triple, Jonathan Mario Balotelli va-t-il signer à l'OM? Toute la canne bière est pendue aux lèvres de l'attaquant italien. Ouais. Balotelli, dont l'agent est un certain Mino Raiola. L'homme est réputé dur, très dur en affaires. Alors Jonathan, c'est ton avis tranché ce soir. Raiola, c'est ni plus ni moins que l'épreuve du feu finalement pour Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM.
Pour la direction olympienne dans son ensemble. Alors quand on regarde la jeunesse du Champions Project, qui s'est accompagné de nombreux doutes quant à la capacité de ses dirigeants qui étaient un petit peu puceaux dans le monde de foot à maîtriser les codes de ce milieu aussi particulier, il y a une chose qui nous apparaît, c'est que une saison et demie après leur arrivée et trois mercato plus tard, on constate que dans la majorité des cas, Jacques-Henri Hérault et Andonis Zubizarreta, ils ont su faire preuve de bonne intelligence la plupart du temps, en étant souvent une main de fer dans un gant de velours. On a pu le voir par exemple sur le transfert de Dimitri Payet, où ils ont attendu pour ne pas forcément s'aligner sur les demandes initiales de West Ham et arriver à l'indemnité de transfert qui était ce qu'ils avaient prévu dès le départ. Donc dans la majorité des cas, ça s'est plutôt bien passé. Je vous parle pas des choix des joueurs qui parfois peuvent être discutés, mais dans les négociations, je les ai toujours trouvés assez solides. Pourquoi cet avis? C'est parce que moi j'ai pas changé d'opinion, j'ai déjà fait plusieurs avis tranchés sur le fait de voir Balotelli à l'OM. Je suis 100% pour. En tant que, vous savez, je m'en cache pas, mon club c'est l'Olympique de Marseille, j'ai envie de voir Mario Balotelli à l'OM, j'en ai déjà parlé longuement. Et dans ces avis tranchés que j'avais fait, j'avais parlé d'une chose, on va pas les refaire, mais j'avais parlé surtout d'amour. Pourquoi? Parce que je pense que ça peut être un très beau mariage Balotelli à Marseille. Parce que Balotelli, on l'a vu dans sa carrière, c'est un joueur qui a besoin de se sentir aimé, qui a besoin d'avoir une relation d'affect avec un club, avec un coach. Et je pense que y a pas mieux que le public marseillais qui est un petit peu fada pour donner de l'amour à un mec qui peut aussi être un petit peu fada. Donc moi vraiment voilà, je reste sur cette position là, je veux voir Balotelli à l'OM. Mais là où je suis un peu plus circonspect, c'est que qui dit Balot, ça dit Mino. Et il suffit de regarder juste à côté. Quand tu fais rentrer Raiola chez toi,
Tu fais rentrer
le diable dans le lit, dans ton lit,
le loup
en fait.
Dans la bergerie.
Ouais. C'est exactement ça. On l'a vu au Paris Saint-Germain. Il est arrivé d'abord par l'intermédiaire de Maxwell, puis par Ibrahimovic, et puis par d'autres. Et on a vu des choses quand même assez bizarres, se produire jusqu'à, même encore cet été, où on voit un petit peu ces tractations qui sont vraiment très curieuses, en mêlant Areola, une probable arrivée de Donnarumma. Ça discute pour envoyer Areola en Italie, mais d'un autre côté, on voudrait faire venir. C'est quand même un peu curieux tout ça. Et, moi, on le voit aussi aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille dans les négociations, durée du contrat, tout ça, le salaire, c'est réglé apparemment avec Balotelli. La seule chose qui traîne.
Faut rappeler combien il avait à Nice,
Comment?
Faut rappeler combien il avait à Nice.
3 ans de contrat.
Le salaire.
Le salaire?
Ouais,
je ne sais pas.
Autour de 400, brut.
Ok, et là, le Marseille lui a offert le plus haut salaire de l'histoire du club, qui est de 700 000 euros. Donc tout est réglé avec le joueur, le contrat, etc. Mais il y a juste une chose qui traîne, c'est la temporisation de Mino Raiola. Alors j'irai pas jusqu'à dire que Raiola c'est un cancer pour les joueurs qu'il représente. Ça serait un petit peu abusé parce que il aurait pas autant de bons joueurs, il aurait pas autant de succès si c'était le cas. Mais je pense juste que quand il endosse son costume d'agent, il a une approche qui pourrait un petit peu s'apparenter à une sorte de syndicaliste agressive. Tu vois, le syndicaliste qui est pour les joueurs, mais qui respecte pas forcément le patronat, qui serait donc les dirigeants. Et moi, je suis peut-être assez extrémiste quand je dis ça, mais je vois que pour moi, pour l'OM, quand je considère l'arrivée de Balotelli sur le plan sportif comme une vraie plus-value, je me demande si faire rentrer Raiola chez toi, c'est vraiment très bien. C'est un coup de bière à plusieurs mondes. Est-ce que tu fais signer ce fameux grand attaquant dont on te parle depuis le début en faisant signer Balotelli? Est-ce que tu mets pas un petit peu des bâtons dans les roues de Mitroglou qui enquille les buts dans les matchs amicaux de préparation et que tout le monde demande à voir avec une préparation physique au complet? Mais surtout, laisser Raiola entrer dans le club, franchement, encore une fois, je vais vous reparler de Paris, mais on l'a vu, il y a eu des choses qui étaient quand même un peu curieuses. Alors il est arrivé avec Maxwell, il y a eu Ibra, après il a signé Matuidi. a signé des jeunes comme Areola, il a signé des très jeunes comme Georgène, et on voit que ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes sur le renouvellement de contrat, sur les renouvellements de salaire, sur les augmentations, sur je reste, si je pars pas. Et le risque de faire venir Mario Balotelli à l'OM, bah, c'est donc de voir Areola foutre son poison à tous les étages du club. Ça serait courir le risque de voir peut-être, je sais pas moi, Morgan Sanson ou Maxime Lopez faire des pieds et des mains pour avoir une augmentation ou pour partir en Espagne au mercato prochain. Ça serait peut-être courir le risque de voir un Escalès ou de voir un Bouba Camara ne pas finalement s'installer sous le maillot de l'OM et demander à partir aussi au prochain mercato. Donc franchement voilà, moi je trouve que dirigeant marseillais, vous qui aviez fait le ménage et décidé de ne plus travailler avec certains agents, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Ils ont décidé, il y a une liste d'agents avec qui bah c'est impossible de travailler parce qu'ils avaient des méthodes qui déplaisaient au côté très carré, très organisé, très légaliste entre guillemets de Jacques-Henri Hérault. Je leur dis juste de prendre garde. Moi je veux toujours voir Balotelli à l'OM, il y a pas de problème, mais l'arrivée aussi de Mino Raiola et la gestion de Mino Raiola dans le club, ça sera vraiment le baptême du feu pour cette direction-là.
Je vous propose d'écouter Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, justement sur le dossier Balotelli, un dossier qui est complexe.
Avec les dossiers de Balotelli, on essaie de trouver un accord. Nice, Balotelli et nous, on essaie de trouver des différentes possibilités, des chemins, de trouver comment est-ce que c'est un dossier assez original, c'est pas un dossier normal dans le football. On a mis toutes les pièces que nous on pense qu'on peut mettre en jeu sur le dossier. Après, si ça marche, sinon il fera aussi penser qu'est-ce que sont les autres éléments qui peuvent nous permettre encore, je reviens à l'équipe de nous faire une équipe plus compétitive, parce que ça c'est aussi important.
François, je voudrais ton avis, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que ça peut laisser des traces si d'aventure ce dossier ne se finalise pas, si Balotelli ne vient pas à Marseille?
Non, je pense pas que ça laisserait des traces. En revanche, je pense que l'Olympique de Marseille ne doit pas baisser sa culotte face à cet agent et face à n'importe quel joueur qui aurait des prétentions ou qui, de par son agent, compliquerait de trop la transaction.
Certains disent qu'il temporise un petit peu dans l'espoir des clubs italiens ou anglais se réveillent.
Mario Balotelli, il revient quand même de Liverpool avant de signer à Nice et du Milan AC avant, avec une réputation. Mais surtout beaucoup beaucoup d'interrogations sur le sportif. L'OGC Nice, comme ils en ont un peu l'habitude, a réussi à le relancer. Après la première saison, il voulait déjà partir. Raiola n'a rien trouvé à la hauteur de ce qu'il pense être le niveau retrouvé de son attaquant. Donc il rempile une seconde saison à l'OGC Nice et ça se passe aussi très bien. Et on a même trouvé du côté de la Côte d'Azur que le joueur a progressé sous la direction de Lucien Favre.
Maintenant, 18 buts sur les deux dernières saisons.
Alors, tu prétends, l'équipe a joué pour lui, hein. Vraiment. Même Alassane Pléa l'a expliqué à demi-mot aujourd'hui dans l'interview qu'il a accordé. Moi, je veux jouer neuf, c'est mon poste, je me suis sacrifié pour l'équipe. CQFD, je me suis aussi un peu sacrifié pour Mario Balotelli parce qu'on avait un attaquant, il le reconnaît. Un peu hors norme. Maintenant, bon, l'Olympique de Marseille, je vais pas dire que c'est autre chose, mais, c'est un club qui, si ils ont besoin de cet attaquant qui a un niveau supérieur. Moi, je trouve que Mario Balotelli, en forme et quand il se met dans le sens du collectif, c'est un joueur hors norme. Et le joueur hors norme, tu le payes un salaire hors norme. Si Jonathan, tu dis bon ben voilà, le salaire c'est réglé et qu'on est sur des aspects originaux de la transaction. Qu'est-ce que ça veut dire, des aspects originaux? Quand tu en viens à un accord sur le salaire, qui est quand même la partie la plus difficile, et le salaire, j'entends par salaire aussi les primes, après, je vois pas bien, enfin, on n'est pas dans le secret des coulisses de l'Olympique de Marseille sur cette tractation, mais je vois pas bien qu'est-ce qui peut bloquer,
c'est-à-dire ce qui bloque.
Que Mino Raiola a des envies peut-être d'avoir d'autres contrats.
On sait ce qui bloque.
De monter un circuit comme ça.
Non, ce qui bloque, c'est surtout en fait la relation entre Marseille et Nice qui est compliquée par le double discours de Mino Raiola. En fait, Marseille, Jacques-Henri Hérault a dit en privé à certains journalistes marseillais que il payait soit Nice, soit Balotelli, mais pas les deux. Grosso merdo, c'est ça l'idée.
Il n'est pas libre.
Grosso modo, à mon avis, Raiola, si on lit entre les lignes, Raiola demande de l'argent à l'OGC Nice pour libérer Balotelli de sa dernière année de contrat. donc qui a, comme tu l'as rappelé François, très justement, Balotelli a un très gros salaire, mais il veut aussi que Marseille paye Nice et donne un billet à Balotelli, ce qui est quand même assez original. C'est ça qui est original.
Allez, on va accueillir Vincent, un supporter de l'Olympique de Marseille au 32-16. Bonsoir Vincent.
Bonsoir à tous.
Salut Vincent.
Alors toi, apparemment, tu as peur du caractère de Mario Balotelli et donc de son agent.
Bah en fait, il y a pas que ça. C'est très compliqué Balotelli. C'est soit il est bon et puis il nous fait une saison entre guillemets intéressante, parce que faut se le dire, on cherche un vrai bon attaquant à l'OM, mais Balotelli sur les deux dernières saisons en Ligue 1, c'est 15 et 18 buts. C'est pas un attaquant exceptionnel non plus, quoi. De là où il revient, c'est déjà très bien. Mais est-ce que c'est vraiment un très bon choix ? Ça, je sais pas.
Alors, dans le jeu, très franchement, quand tu regardes son profil, il a tout pour jouer à la pointe du 4-3-3 de Rudy Garcia. Très franchement. Du 4-2-3-1 de Rudy Garcia. Il est capable de garder le ballon dos au but. Il est capable de prendre la profondeur. Il est capable de frapper de loin. Il est capable de bien faire jouer ses milieux de terrain offensifs. Très franchement, il a le profil idoine. Après, il y a une chose, tu vois, par rapport à la saison dernière. C'est que dans les grands matchs, il a été là. Toujours. Donc ça,
ouais, non, mais
tu sais, ça compte quand même.
Pas de problème. Aucun souci là-dessus. C'est vrai que quand tu regardes la saison dernière, t'as queuté à mort devant le but de adverse. Costas, il a pas été exceptionnel, il a été beaucoup blessé.
Il marquera sa quinzaine de buts cette saison, Mitroglou, tu verras.
Mais moi, je l'avais annoncé l'année dernière. J'avais quand Costas il est arrivé, j'étais sur votre antenne et j'avais dit Costas, c'est 15 buts cette saison. Il en a marqué 12 ou 13. J'en étais pas loin.
Non, mais cette saison, t'inquiète pas. Moi, je pense que Mitroglou.
Ouais. Non. Après, il y a un autre aspect qui me fait aussi peur, c'est le fait que Balotelli, c'est quand même entre guillemets une superstar. Donc, il va avoir un ego surdimensionné. C'est un peu un Memphis Depay.
Ouais, mais Vincent, je te coupe encore, mais regarde, à Nice, il s'est quand même super bien intégré dans un vestiaire avec des joueurs qui étaient d'un standing et d'un calibre moins élevé que celui du vestiaire de l'Olympique de Marseille.
Oui,
il y a
oui,
pas eu d'histoire.
C'est vrai qu'à Nice, il y a eu zéro histoire.
Il s'est fait pote même avec Cardinal, j'imagine.
Même en coulisses, la direction de l'OGC Nice te dit, on a quand même vachement bien géré ce bonhomme-là.
En revanche,
il y a une chose, c'est que il a repris la confiance, on va dire, et là d'arriver à l'Olympique de Marseille, il faut un peu plus qu'il soit dans l'état d'esprit de c'est le club qui a besoin de moi plutôt que moi qui viens servir le club parce que j'ai retrouvé ma flamme.
Moi, je voudrais qu'on recentre le débat sur Mino Raiola. Est-ce que Mario Balotelli aura son mot à dire si Mino Raiola dit tu ne vas pas à Marseille? Est-ce qu'il peut influencer la relation son agent?
Ça dépend du standing du joueur, mais il a un standing. En plus, il a retrouvé la sélection italienne.
Ouais.
Il a été à mon avis avec Mancini. Il est question quand même qu'il est vraiment une deuxième mais une énième chance. Donc c'est un international italien en puissance. C'est une relation de confiance, Christophe, avec l'agent. Je t'impose, tu vas à Marseille. Non, si le joueur il dit non, excuse-moi, moi j'y vais pas. Non, je pense qu'il y a une envie de Balotelli.
Oui.
Il y a une offre de Marseille et les conditions sont remplies. Après, Jonathan l'a décrit. Il y a un jeu à trois comme ça avec l'OGC Nice, Mino Raiola, Olympique de Marseille. Ça doit pouvoir se décanter. Après, sur la situation sportive de Balotelli à l'OM, superstar. Oui, à 100%. Mais superstar, il faut qu'elle se mette.
Il arrive dans un vestiaire avec un entraîneur qui a quand même, moi je l'ai beaucoup critiqué, mais ça on peut que lui reconnaître qu'il sait quand même bien gérer les hommes, qu'il sait bien gérer les égos. Et il arrive dans un vestiaire qui est vraiment, on dit le groupe vit bien, mais là le groupe marseillais, on l'a vu dans l'épopée européenne.
Ouais,
c'est un groupe qui vit quand même super bien, même quand il y a eu la tourmente en début de saison, que ça se passait mal. C'est un groupe où il y a toujours eu une bonne ambiance et il n'y a pas une tête qui dépasse. Alors qu'il y a des stars comme Dimitri Payet.
En revanche, je pense que c'est un joueur qui t'épuise en tant que manager. Parce que il a parlé d'affection, Jonathan. C'est un joueur qui doit te demander à ce qu'il soit tout le temps.
Je ressens un peu la même chose avec certains consultants, François.
Mais tout le temps brossé en sens du poil. Je pense qu'un mec comme Garcia et même un mec comme Favre, à la fin, à un moment donné, t'es
fatigué. Garcia, il a quand même montré qu'il savait gérer des égos un petit peu compliqué. Notamment la Roma.
Tu sais le gérer. Mais il est très très exigeant.
Vincent, tu veux rajouter un petit mot?
Ouais, ce que je voulais dire, c'est que Mino Raiola, on peut en dire ce qu'on veut, il peut traiter ça comme il veut, on s'en fout, c'est pas le problème. S'il a des si bons joueurs que ça, ça peut être aussi une grosse porte ouverte pour l'OM. Si ça se passe bien avec Balotelli, que tout est rempli, que tout se passe bien, etc., etc., derrière, il
peut bien sûr
être placé d'autres
mais
joueurs.
Mais il peut aussi mettre le boxon en récupérant certains autres joueurs. Il y avait, on a eu l'agent d'Alphonse Areola, l'ancien agent d'Alphonse Areola à l'after, qui expliquait, que Areola était parti pour aller avec Raiola. Et, quand tu vois ce qui se passe, parce que avec certains jeunes, notamment le cas d'Alex Georgène, tu te dis, est-ce que t'as forcément envie, par exemple, qu'un Bouba Camara aille avec Raiola? T'es sûr de ça? Moi je sais pas.
Mais après le
moi, je m'en cogne.
C'est l'intérêt du joueur qui va primer.
Oui, l'intérêt du joueur, il va se dire moi avec lui, j'ai un des meilleurs agents. C'est pas l'intérêt du joueur qui compte, c'est l'intérêt du club. Et moi j'ai pas envie que Bouba Camara, il les tape à la porte pour demander à se barrer. Moi je veux que Bouba Camara il reste à l'OM.
Oui, mais ça toi tu veux ça.
Mais tout le monde veut que Bouba Camara reste à l'OM. T'as envie Vincent que Mario Balotelli donc rejoigne l'OM. Merci beaucoup Vincent de nous avoir appelé au 32-16.
Oui, excusez-moi. Est-ce que je peux faire juste une petite dédicace pour un pote?
Non, avec plaisir Vincent.
Vas-y, écoute.
Alors, je fais un énorme bisou à mon frérot Pierre-Louis, le Lyonnais. Il m'invite à chaque fois qu'il y a un match entre l'OL et Marseille. Il travaille à l'OL et je lui fais un énorme bisou parce que je sais qu'il est sur la route et qu'il m'écoute.
Ça marche, merci ça beaucoup Vincent.
Ciao,
Vincent. Au 32-16.
À toutes.
On va accueillir également un autre auditeur au 32-16. C'est Jean, supporter également de l'Olympique de Marseille. Bonsoir Jean.
Salut les amis, si je vous dis ça, vous allez penser à Daniel Riolo, forcément.
Ça va, pour pas le... Alors Jean, toi tu as l'air plutôt satisfait pour l'instant du mercato de l'OM, tu as entière confiance en Jacques-Henri Hérault.
Ah bah écoutez, je crois que je suis heureux d'avoir tous les trois, Christophe, François et Jonathan, qui est je sais que c'est un supporter de l'OM. Comment tu fais Jonathan autour de tous ces Parisiens? Moi c'est la question que je me pose des fois, c'est vrai, c'est difficile.
Eh ben, je sais pas si Christophe est supporter parisien.
Je reste objectif, contrairement à certains de mes amis parisiens. Tu vois l'idée?
Moi je suis neutre, mais je suis pas parisien.
Moi non plus.
Vous savez les amis, alors vous savez que je vous écoute en podcast, parce que je loupe aucune émission de l'after, quand je la manque, je l'écoute en podcast, et je vais dans une salle de sport, je fais mon sport, je peux être le seul, tous les autres écoutent de la musique, et moi j'écoute l'after en faisant des efforts, ça m'aide, et je trouve vos débats super.
Tu faisais combien au développé couché, Jean?
C'est pas au développé couché, moi je suis un monsieur de 54 ans, j'ai pas ton âge,
tu fais du cardio, quoi.
Non, c'est du cardio, je fais du tapis, je fais quand même du tapis entre 7 et 12 en poussée, pendant une heure ça m'a arrêté, ça me fait du bien. Avec
Véronique et Davina,
moi je vais vous dire une chose, je pense que au-delà, alors je suis d'accord avec Jonathan sur Bouba Camara, moi ça fait plus d'un an que je dis que c'est un gamin qui a un potentiel énorme, il faut pas le griller, il faut le garder, il faut le protéger, on le voit avec les U19 actuellement, et j'ai vu le match amical de l'OM, il y a le petit Abdallah qui est très prometteur, il y a le petit Rokia également. On a vraiment, je trouve qu'actuellement, l'OM grandit. L'OM a grandi, je pense que l'OM a envoyé un message fort. Alors, excusez-moi, je vais peut-être sortir du contexte Balotelli. Moi, l'année dernière, pour moi, l'Olympique de Marseille, avec cette épopée européenne, avec également cette course poursuite jusqu'à la dernière journée, a balancé son bonnet par-dessus les moulins à tous les autres clubs de Ligue 1. Je parle pas du PSG. On a fait comprendre un message qu'aujourd'hui, enfin, un club en France a compris qu'on pouvait jouer l'Europa League et qu'on pouvait jouer le championnat également à fond et jouer une place en Ligue des Champions.
Eh Jean, Lyon l'avait montré aussi l'année d'avant, faut pas oublier.
Il y a Lyon, je n'oublie pas Lyon. Moi, je vous parle de l'OM là, effectivement.
Ouais,
ce qu'a fait l'OM et ce qu'a créé Rudy Garcia. Et pourtant, Jonathan, je peux te dire une chose, c'est qu'en début de saison l'année dernière, Rudy Garcia me décevait, j'avais des doutes. Et ensuite, il a su créer ce collectif.
Moi aussi. Hein.
Il a su créer cet esprit et ce mental, parce que le football, on oublie souvent, on parle souvent de stars, on parle de joueurs, mais regardez à l'équipe de France, comment Deschamps a recadré Mbappé, comme il l'a remis, il a dénéimarisé, il l'a remis dans le droit chemin, et Mbappé a joué dans le collectif, et automatiquement ça a donné ce que ça a donné. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que le football se joue à 11, et que Rudy Garcia a croué un groupe. Je vois un Sakai qui a fait une Coupe du Monde superbe.
Ballon d'or, Sakai.
Mais à son niveau, c'est un gamin. Quand je l'ai vu arriver à l'OM, c'est vrai qu'on avait des doutes. Il a grandi avec Garcia. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée privé de Tchalé-Tchatcham, là, je sais pas comment ça se dit exactement, et peut-être Balotelli, si bien je pense que Balotelli, je crois qu'il a envie, le garçon a envie d'aller à l'OM, parce que quand il a joué au Vélodrome, je crois que l'ambiance...
C'est un club et un stade fait pour lui.
Mais c'est un club fait pour lui. C'est
oui
un,
ou non
c'est oui
pour
ou
moi,
non.
Ça, Jean, pour moi, soit c'est la passion,
soit c'est la haine.
Soit voilà, ça voilà, explose.
Ou c'est le,
dans
ou
le mauvais sens.
Le feu,
mais c'est ça qui est beau.
Ou la glace.
Oui, c'est beau. Oui, oui, certes, c'est beau.
Ce sera quand il arrive un sentiment amoureux.
Mais je pense qu'aujourd'hui, le collectif de Garcia, avec ces jeunes qui montent, je crois que Jonathan, je suis content que Jonathan ait mis l'accent sur Bouba Camara. Je pense que tu peux parler du petit Roquia, du petit Abdallah. Ouais. Le centre de formation de l'OM est en train de grandir. Je pense que c'est cette Jacques-Henri Hérault. On a eu, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Alors, on n'a pas, le stade n'est pas à nous, mais l'acquisition de l'exploitation du Vélodrome, c'est un grand pas. C'est quelque chose
c'est
de fort.
Très important.
Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que tous les Marseillais, je sais qu'ils écoutent beaucoup sur RMC, soyons patients. Cette OM grandit. Petit à petit, on est parti avec des fondations, on grimpe.
Et Jean, tu sais, pour recentrer sur Balotelli et Raiola, quand tu parles de l'exploitation du stade, c'est la même démarche. On connaît les relations très tendues qu'il a eues entre Jacques-Henri Hérault et Arema. Et au final, on regarde, il a fini par obtenir ce qu'il voulait à la base, Jacques-Henri Hérault. Donc j'espère que ça sera pareil avec Raiola.
Je l'espère.
Ça a été tendu, à un moment. Il parlait de plus jouer de monde même.
Ah non, mais il voulait construire un stade. Moi, je me souviens qu'il voulait même construire un stade pour carrément mettre une grosse pression. Et il a eu raison, et ça y a donné raison. Maintenant, j'espère qu'il va, on va arriver à ce combat final. Je ne sais pas ce que t'en penses, Jonathan. Je pense qu'il nous faut, au-delà de ça, peut-être un milieu de terrain.
Parle de Valentin et Céric aujourd'hui.
Ouais,
on en parlera
plus. J'aimerais bien voir Clément Grenier à Marseille.
Avec Tristan Molinéry tout à l'heure. Mais c'est chaud apparemment avec l'ancien Niçois, l'ancien Stéphanois.
Ben écoute, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais je te le dis franchement, autant tu m'aurais parlé il y a... au mois de septembre, au mois d'octobre, j'avais vraiment des doutes sur Garcia parce que justement
moi aussi, comme beaucoup, hein, tu sais.
Ouais, il faisait pas jouer le petit Camara, il faisait pas. Et puis chapeau. Et puis aussi, il va falloir. Il y a quand même une donnée intéressante qu'il va falloir voir. C'est nos trois champions du monde. Dans quel état d'esprit ils vont revenir? Est-ce que ils vont vraiment honorer ce statut? Parce qu'il y a aussi ce notre Tauvin, notre Rami et notre
Mandanda.
C'est bien
qu'ils sont pas beaucoup fatigués là-bas.
C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup. Mais je pense.
Mais à quoi tu penses en parlant de statut? Honorer le statut?
Ben honorer le statut, c'est que je pense que quand ils vont honorer ce statut, il faut qu'ils soient bon, exemplaires, ils le sont. Mais je pense que Tauvin, quand je dis honorer ce statut, c'est-à-dire que quand t'as un statut de champion du monde, je crois que c'est Deschamps qui l'a dit, c'est plus pareil. Et je crois que tu as des devoirs. Et j'espère que nos trois joueurs, j'en suis sûr et certain, vu le comportement qu'ils ont eu, même s'ils n'ont pas beaucoup joué, ils vont avoir des devoirs. Et je pense qu'il va falloir que certains joueurs s'appuient sur Rami. Je crois que Rami, il n'y a pas de problème.
Je ne fais pas de doute sur la maturité des trois ce soir.
Tauvin a quand même montré qu'il en avait dans le froc. Ouais, hein, pour revenir comme ça, Newcastle et tout.
Non, mais quand je dis Tauvin, pour revenir un petit peu, voilà, je reviens à ce que je voulais penser, c'est que Tauvin, on l'a beaucoup accusé d'être un petit peu absent dans les gros matchs. Hein, dans les matchs contre Paris, on va pas dire Paris au Vélodrome, il marque le but, donc on va pas, mais il a été absent dans des matchs, on va dire, un petit peu déterminants, c'est ce qu'on lui reproche. Bon, il faut voir peut-être un petit peu le contexte face à des grosses équipes, il a peut-être été plus marqué que face à des équipes dites plus faibles. Faut voir aussi les contextes des matchs. Mais peut-être que Tauvin doit passer justement, puisqu'on lui reproche ça, ce cap, de jouer ce cap, ce statut de champion du monde, peut-être que ça va lui donner ce côté en plus. Moi je suis très optimiste et j'ai une confiance totale dans cet Olympique de Marseille. C'est vrai qu'à Marseille, on avait le tempérament. Moi, je fais partie des vieilles générations. On a connu les grandes heures. On était toujours pressés. On voulait des stars. Mais là, je crois que on sait qu'on peut pas financièrement lutter pour arriver et chatouiller le PSG. On pourra y arriver un jour. Il l'a dit, Jacques-Henri Hérault. N'oublions pas ses premières interventions.
Peut-être même dès cette saison. Jean, merci beaucoup en tous les cas de nous avoir appelé au 16 et à continuer à nous écouter à la salle. Il est 21h28. On va clore cette page Olympique de Marseille. Mino Raiola et Mario Balotelli. Tout de suite, place à la vie tranchée de François Manardo.
RMC, le super football show, la Fairfoot.
Il est 21h30, vous êtes sur RMC, vous êtes également sur BFM Sport. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Tout de suite, place à la vie tranchée de François Manardo.
Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question.
Ah, ça te fait marrer, toi, hein.
Toujours.
Ça te fait marrer, toi.
Alors, François.
Les histoires de circoncision, ça fait marrer tout le monde, hein. C'est marrant, ça. Hein.
T'es un grand malade.
Ouais. Bah, chacun ses fantasmes, hein, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Il rougit.
Bordeaux, les
rougit,
amis.
Là.
Bordeaux est plongé dans l'incertitude la plus complète. À quelques jours, désormais, de son deuxième tour de qualification à la Ligue Europa. Face aux Lettons de Van Spils.
Ah, merci, parce que j'allais vous dire, est-ce que vous pouvez me citer le nom du club letton que Bordeaux va...
J'ai travaillé, M. Monardo.
Non, mais Van Spils. Alors, Van Spils, j'espère que personne se souviendra du nom de ce club la semaine prochaine ou dans 15 jours.
Ouais, car on se souvient encore de Vidéoton. Hein.
Oui, mais on en parlait là avec Jonathan juste pendant la pub. Vidéoton, c'est juste un peu plus élevé que le niveau d'un club letton. Même si Vidéoton n'a pas fait la phase de poule de l'Europa League, mais Van Spils quand même, si tu passes pas, avec ou sans Malcolm d'ailleurs, je vais y venir, puisque c'est Malcolm qui est au cœur du sujet de l'actualité bordelaise, une actualité qui est encore floue et toujours compliquée à décrypter avec la stratégie, s'il y en a une, du côté des dirigeants bordelais. Gustavo Poyet leur a mis un bon coup de pression au début de, enfin, lors de la reprise de l'entraînement pour les Girondins, parce qu'il a besoin de voir venir quelques renforts du côté de Bordeaux, notamment au milieu. Mais Bordeaux est dans le rouge financièrement, ils ont besoin de vendre, ils savent que avec Malcolm, c'est la plus belle plus-value qu'ils peuvent faire. Le joueur, je pense aussi, il a envie de voir ailleurs.
Ils en veulent 40 millions, hein, si je dis pas de bêtises.
Ils en voulaient. Autour de ça, ils avaient une offre de Everton. Finalement, la Roma est intéressée. La Roma vient d'encaisser un très gros chèque avec la vente du gardien brésilien Alisson au Liverpool.
La Roma a proposé 35 millions plus 3 de bonus refusés pour l'instant par la direction bordelaise.
Bordeaux dirait, a priori, on ne discute pas en dessous de 40 pour l'instant. Alors, Bordeaux vend Malcolm, ça renfloue partie des caisses des Girondins de Bordeaux et tu vas affronter des Lettons en Coupe d'Europe. Après, moi, je pense que sans Malcolm, si Bordeaux n'arrive pas à passer un obstacle d'un club letton, il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser sur comment cette saison va démarrer avec les Girondins.
Ton avis tranché, en tous les cas, c'était ce flou autour du club. Ça peut être un nouvel échec, surtout,
alors, François. Attends, il faut donner sa chance au produit, mais il faudrait que les dirigeants bordelais soient clairs quant à ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, voilà, où on veut aller en Europa League, et voilà où on doit aller financièrement, nous, pour nous retrouver. S'ils annoncent la couleur à l'extérieur, au moins ils l'annonceraient aussi à l'intérieur du club. Je vais prendre cet exemple de l'OGC Nice l'année dernière, qui était engagé aussi sur les taux préliminaires de Ligue des Champions, et qui avait dit, voilà, les joueurs qui vont nous quitter, les questions de Ricardo Pereira, c'est fait, après il y avait Dalbert, ça a été fait,
ça a un peu pourri la vie,
un peu de forcing, et puis ça s'est retourné contre le joueur en finale, mais au moins c'est fait, et c'est vrai qu'il avait son bon de sortie aussi. Là, chez les dirigeants bordelais, on ne sait pas bien où ils veulent aller. Entre eux, on est dans le rouge, il faut qu'on mette du pognon, et on a la Europa League, et je le disais hier soir aussi dans mon avis, maintenant qu'on arrête de traiter cette Coupe d'Europe, on a vu Lyon, on a vu Marseille le faire, et ça n'a servi qu'une seule chose, à la fois dans le prestige retrouvé aussi un peu des clubs français sur la scène de l'Europa League, et puis ça te fait rentrer des sous, mine de rien, et Bordeaux peut avoir la prétention de faire quelque chose en Europa League.
Il y a surtout, François, un problème de timing sur cette transaction là, ce possible rachat par ce fonds américain. On est à 15 jours, 3 semaines de
la reprise,
c'est
ça, ouais.
À trois semaines de la reprise, François. Moi, j'y crois pas trop, parce que, et puis si ça doit se faire avec une saison qui va reprendre,
après,
pour moi, c'est un peu vaseux.
Ouais.
Non, je pense que Malcolm, en plus, si tu
François, regarde ce qui s'est passé avec l'Olympique de Marseille, justement. Mais c'est racheté en cours de saison.
Oui, mais en cours de saison, mais McCourt arrive, mais complètement en cours de saison, mais il dit, le projet, ça va vraiment démarrer la saison prochaine. On a tous été un petit peu sceptiques par rapport à la mise en place de ce projet.
Il a démarré vite le projet. Hein.
Mais il démarre parce qu'on se dit, on va leur donner l'été dernier, donc l'été 2017, l'intersaison, pour qu'ils se renforcent.
Ah non, mais il a commencé vite. Rappelle-toi, il vient Franck Passy, il y a Rudy Garcia qui arrive.
Et après, ça prend doucement, mais sûrement, ça prend avec une finale d'Europa League au bout et une qualification pour le play-off de Ligue des Champions. Là, à Bordeaux, moi, je crois pas à cette histoire de repreneur. Après, s'ils sont repris par les Américains ou par qui tu veux et que ça se passe, d'accord, mais en termes de timing, je vois mal comment ça peut prendre.
Non, après, Gustavo Poyet, il a pas toutes les cartes en main. Il a déjà ouvert le parapluie.
Il a raison de mettre la pression.
Il a dit clairement, si ça se passe mal, s'il devait y avoir une élimination justement en tour préliminaire de Ligue Europa, voilà, contre les Lettons de Van Spils,
un pays avec un football champion du monde, ça serait pas de ma faute.
Tu t'es pris les pieds dans le tapis l'année dernière aussi. Je sais que t'as raison, c'est moins fort ce club letton, mais quand même.
Mais il y avait un peu plus de stabilité l'année dernière parce que Gourvenec était à la barre et on en pensait tous du bien.
On pensait que ça marcherait.
Un effectif qui tenait et ils l'ont avoué.
Et il avait eu des belles recrues.
ils ont eu, enfin, Vidéotron, ils les ont pris par-dessus la jambe. Ils gagnent le match aller 2-1, après ils perdent un peu honteusement en Hongrie, ils sont sortis, et Vidéotron fait pas la phase de poule. Maintenant, Ventspils, ok, tu dois passer. Tu dois passer. Là, c'est pas pour le coup, bon.
Mais tu sais comment ça va se passer. Match pour jamais. Match aller en Lettonie. Non,
tu dois passer.
Sur une pelouse sans doute difficile.
C'est comme Lille-Karabakh, il y a trois saisons ou il y a deux saisons. Et Lille se fait sortir un peu honteusement. C'est Antonetti qui était à la tête du LOSC. Là,
c'est pas possible.
Tu vends Malcolm avec 40 ou plus. Tu peux aussi recruter. Tu peux aussi te renforcer et récupérer ce milieu défensif qu'ils attendent.
Tout à fait.
On va accueillir au 32-16 Anthony, un supporter de l'Olympique de l'Olympique, les Girondins de Bordeaux, pardon.
Ça
salut Anthony.
Clair, ça, je crois,
de Bordeaux, ouais,
tu prends mal Anthony ou pas?
Ouais, je sais pas si je dois excuser.
C'est sa première.
Tout le monde confuse Anthony, supporter des Girondins de Bordeaux. Toi, en tous les cas, tu espères un rachat.
J'espère. Alors là, on n'est plus dans l'espoir. En fait, là, ça va se faire. C'est une certitude. En fait, nous, ce qui nous pose problème, c'est que pour l'instant, au niveau du sportif, ben, c'est un peu compliqué. Alors, je reviens sur le match amical d'hier où Poyet en fait fait jouer sans carré numéro 9. du coup, en laissant Depréville sur le banc. Alors après, il s'est un peu blessé. Laborde sur le banc aussi. Donc du coup, bon, on sait pas trop où est-ce qu'on va à ce niveau-là. Au niveau du rachat, donc ça va se faire. Ça, y a pas de souci là-dessus. Après,
c'est le timing. Le problème, c'est bizarre.
Ouais, le timing est encore que voilà. Après, si compte mettre un peu de sous en septembre, ou alors à partir de cet hiver. Ça veut dire qu'il y a rien à attendre de cette saison. Mais après, on va attendre la.
Anthony, je te coupe, mais rappelle-toi quand Macourt arrive, il a investi à l'hiver. Au final, le club termine se qualifier en Coupe d'Europe.
Ouais, mais là, t'as vu un peu le chantier. Dans l'équipe, c'est compliqué. Je t'entendais tout à l'heure, François, parler des 40 millions de Malcolm, mais il faut pas se voiler la face. Ils seront pas réinvestis. M6 va se barrer, on le sait. Donc a priori grosso modo à 5 millions près, ça va se jouer à 70 millions à peu près la vente du club. Ils vont partir avec les 40 millions de Malcolm, ou peut-être dépenser 5 ou 6 millions histoire de partir sur une bonne note. Mais nous voilons pas la face, quoi. Il va pas réinvestir cet argent-là, il l'a jamais fait depuis 10 ans. Donc là, on se fait pas d'illusions. Après, pour le match de Coupe d'Europe,
tu as des craintes, toi, Anthony?
Ouais, des craintes. Ben, quand tu te fais plier par Vidéotron, on peut me dire ce qu'on veut. Moi, c'est meilleur que les Lettons, ok, mais Vidéotron, ça reste pas une référence en Europe. Je crois que le tour d'après, ils en ont pris 5 à Belgrade. Voilà. Après, franchement, comme c'est le fou un peu partout, eh ben allons-y gaiement. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis on a 3 jeunes. Alléluia, j'ai envie de dire, parce que le centre de formation, on peut pas dire que ça soit une franche réussite. Mais là. On a 3 joueurs, donc Koundé, Tchouaméni et puis Youssouf, qui sont vraiment pas mal, qui font une bonne préparation. Alors après, ce qui m'embête un petit peu, c'est que ça soit ces 3 jeunes-là qui montrent un peu l'exemple. Donc je suis un peu embêté. Poyet, je comprends pas trop ce qu'il fait. J'arrive pas trop à saisir un petit peu ce qui se passe.
On n'a jamais vraiment compris quel était le style de l'équipe depuis qu'il a repris.
Ah oui, mais de toute façon, ça fait. Oui.
Bon, c'est après, ça qui est inquiétant.
J'ai envie de te dire qu'il arrive dans un cadre qui est quand même qui est quand même, comment dire, en étant poli, qui est quand même nocif, parce qu'il y a quand même pas mal de parasites dans ce club.
Je suis d'accord Anthony, mais est-ce que t'attends au minima d'un entraîneur qui arrive et qui comme ça, c'est de voir au moins de pouvoir sentir là où il veut aller,
les emmener en Coupe d'Europe, là où il a pris le club, c'est pas mal quand même.
Ouais, mais quand la com elle est dégueulasse plus haut. C'est difficile de pouvoir instaurer une ligne sportive. Tu sais même pas.
C'est difficile.
Déjà, tu sais même pas s'il va être sur
Anthony,
le banc dans 2 mois.
C'est difficile, mais après, dans le vestiaire, il y a que les joueurs avec l'entraîneur, et c'est eux aussi qui sont la locomotive du club.
Ouais,
si tu as une direction, ce qui semble pas être le cas, enfin, on le sait à peu près tous, qui arrive à poser une stratégie comme on l'a vu avec le projet marseillais piloté par les Américains. Et c'est aussi le charme du football, c'est que avec 3 bouts de ficelle, des fois, sur un court terme, j'insiste, à court terme, ça peut fonctionner.
Ouais, mais les trois bouts de ficelle, en fait, on les a pas. Martin, alors je sais pas.
Reprenez Ounas.
Il va à la Saint-Etienne, non, Ounas?
Non, mais Ounas, c'est bon. Ounas, on a vu, on a revu, c'est comme ça y va, c'est des bons espoirs, mais qui mènent nulle part. Bref, Ounas, on s'en fout un petit peu. Mais par contre, Martin, qui a priori est le président du club, hein, a priori, enfin, de ce que j'entends, de ce qu'on m'a dit, il était en vacances il y a encore quelques jours. Donc en fait, moi, il faut qu'on m'explique qui dirige, qui commande. C'est un bordel sans nom. La com, elle est dégueulasse. Ça fait des années, on est habitué. Mais là, on veut du changement. Donc, on espère que ça sera mieux qu'M6. Et franchement, ça sera pas difficile. Maintenant, on est aussi inquiet dans le sens où on sait pas trop à quoi on s'oriente. C'est-à-dire qu'on sait que ça va être Joseph Dagrossa avec toute sa clique et tout ça, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'il va apporter? Est-ce qu'il va apporter une enveloppe suffisamment conséquente? Quelle ligne directrice il veut pour le club? C'est tout ça qui nous intéresse. Maintenant, on est passé au cap supérieur. On sait que ça va être vendu. Maintenant, on veut savoir comment et puis avoir une com qui puisse nous éclairer. Qu'on puisse s'abonner. Pour quelque chose qui va être utile. Moi, j'ai pas envie de m'abonner comme ça a été pendant 2, 3, 4 ans à te faire chier au stade.
Mais toi, t'es confiant par rapport à ce fonds américain.
C'est une merde sans nom, quoi.
Toi, t'es confiant les intentions, les ambitions, parce que autant McCourt, c'est quelqu'un qui a un vrai vécu dans le monde du sport. Il a piloté une franchise de baseball aux États-Unis. Il connaît le sport, ouais. Même si le baseball n'est pas connu en France. Il sait
sportif aux États-Unis.
Ce qu'il doit faire et comment ça fonctionne. Autant là, un fonds de pension.
Mais après, il a relevé Burger King. Donc après, ça peut être une dédicace aussi pour Gignac. On cherche un neuf.
C'est le deuxième buteur de l'histoire des Tigresses. On a 82 buts, il est très bien là-bas.
Non, mais là, je plaisante, mais je cracherai absolument pas dessus. Hein. Juste qu'on a en neuf, franchement, Gignac, je prends, mais à 100%.
On peut tromper une fois 1000 personnes.
Ah, mais sans problème. Mais par contre, le fonds d'investissement, ouais, non, mais on n'est pas confiant. On n'est pas confiant parce que tu sais pas sur quoi ça se base. Après, je me dis que bon, s'ils achètent le club 70 millions, c'est quand même pour pas faire de la merde derrière. J'ose espérer. Maintenant, il faut de toute façon, il faut qu'il se passe quelque chose dans ce club.
Il faut qu'ils mettent des gens à la tête du club qui connaissent le football.
Entre les cas, des gens compétents. Ben ouais, mais complètement. Mais ça, c'est difficile aussi à trouver.
Et ça, t'auras la première indication. Exactement. Ça sera pas sur le mercato, ça sera sur l'organigramme.
Et ça sera déjà jeudi après ce premier match face aux Lettons de Ventspils. Merci beaucoup, Anthony, de nous avoir appelé.
Ouais, je peux faire juste une
32-16, rapidement, Anthony.
Ouais, rapidement, c'est juste pour mon fils et ma fille, Lucas et Lola.
Si c'est les enfants, ça va.
J'aime beaucoup.
Voilà. On les envoie.
Ma femme aussi, sinon je vais me faire engueuler.
Il est 21h45, vous êtes sur RMC. L'Afterfoot revient dans un instant avec les dernières informations du jour. Et à la boucle, François, Jonathan, il sera notamment question d'un Brésilien qui porte le numéro 10 et qui joue au PSG. À tout de suite.
Qui ça peut être?
RMC, le super football show, l'Afterfoot.
21h45, vous êtes sur RMC, c'est l'Afterfoot, vous êtes au bon endroit. Et on passe immédiatement aux informations de la journée. On démarre avec Neymar qui a accordé un entretien ce matin à l'AFP depuis le Brésil où il participait à un tournoi de Five. Il veut rester au Paris Saint-Germain. Hein. On en a parlé déjà dans des précédentes émissions. Et surtout, on va l'écouter. Il a eu du mal à évacuer la déception de cette élimination donc du Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde face au Diable Rouge. Écoutez.
Non, je n'ai pas pensé à arrêter le football. Mais je ne voulais plus voir un ballon devant moi, je ne voulais pas voir de foot. Je voulais me déconnecter de tout. J'ai eu mes moments de deuil et de tristesse, je voulais me retrouver seul.
Je vais être un petit peu dur, mais il arriverait presque à nous arracher une larme, notre ami Neymar.
Oh là là.
Il n'y a pas un petit côté Calimero là sur ce coup-là quand même.
Ça c'est le genre de mec, c'est bête qu'il n'y ait pas le service militaire obligatoire au Brésil. Tiens, ça aurait fait du bien un peu.
Tu es sûr qu'il n'est pas obligatoire?
Je sais pas, non mais j'ai pas l'impression qu'il l'ait fait lui alors en tout cas. Hein.
Moi j'avais eu l'occasion de le dire quand on parlait de lui pendant la Coupe du Monde sur le plateau de BFM, mais je n'ai jamais vu un joueur de ce calibre, de ce talent, on parle quand même d'un des top 5 dans le monde, avoir à ce point son image par sa faute, qu'on arrête de mettre ça à chaque fois tout sur le dos des médias, mais par sa faute, à ce point, son image écornée et moquée, ridiculisée dans son propre pays, alors que c'est vraiment une idole qui porte la sélection en 2014 à l'occasion de la Coupe du Monde chez eux.
Aux Jeux Olympiques aussi.
Et Jeux Olympiques, il est médaillé olympique. C'est un... c'est un garçon. Alors bon, là on a un extrait. Je crois qu'il a reconnu aussi qu'il devait un petit peu revoir certaines choses.
Exactement, François, tu es un homme de médias.
Revoir
la transition.
Et
parfait, on va l'écouter. Et je te redonne la parole.
Avec le gamin sur les genoux.
Je te redonne la parole juste après. On va écouter de nouveau donc Neymar, numéro 10 donc de la Sélection et du Paris Saint-Germain, qui est revenu également donc sur son attitude durant ce mondial.
Moi, je ne suis pas allé au mondial pour subir des fautes. J'y suis allé pour battre mes adversaires. Après, c'est clair qu'ils ne vont pas me laisser passer sans faire de fautes, parce qu'ils savent que sinon, je vais droit au but. C'était le jeu.
Que penser là des propos de la star brésilienne?
Moi, je pense que quand même après ce qui s'est passé cet été, où c'est devenu vraiment là une des risées, c'est devenu un peu la risée du football mondial pendant la Coupe du Monde avec tous ces gens, tous ces challenges, les Neymar challenge.
Ouais, un peu.
Ouais, c'est devenu la risée du football mondial pendant la Coupe du Monde. Non, mais je pense qu'il est pas bête. Je pense que il est peut-être mal entouré, mais il est pas bête. Je pense qu'il s'en est rendu compte et je pense qu'il a conscience d'une chose. Son objectif, on le sait, c'est pas gagner forcément avec le PSG, c'est d'avoir le Ballon d'Or. Pour avoir le Ballon d'Or, tu dois rehausser, redorer un petit peu ton blason. Et je pense qu'il a compris que certaines choses, surtout que maintenant avec le nouveau système de vote du Ballon d'Or, bah c'est les joueurs qui votent. Je pense que il faut qu'il agace un petit peu moins. Donc j'attends de voir un nouveau Neymar, parce que c'est un joueur qui est formé au Brésil, où on t'apprend à faire ce genre de choses, à exagérer, à tomber, ça fait partie de la culture, un petit peu être malicieux comme ça, cette malice, ce vice. Mais je pense qu'il a compris qu'il fallait que ça s'arrête, et je m'attends vraiment à voir d'une part un nouveau Neymar. Je suis très confiant quand je vois les déclarations qu'il fait vis-à-vis de Kylian Mbappé. Je me dis que c'est vraiment voilà qui va arriver dans un bon état d'esprit. Parce que de toute manière, en plus, contrairement à ce qu'on avait dit, les problèmes c'était pas avec Mbappé, mais c'est avec Cavani. Et je m'attends à voir un Neymar qui fait une saison énorme au Paris Saint-Germain. Après, je me trompe peut-être, mais les déclarations qu'il a pu nous faire, alors outre le fait qu'il a toujours ce ton un petit peu larmoyant, un petit peu gamin, qui est assez insupportable, je trouve que ça va dans le bon sens.
Moi, je m'attends à ce que les paroles soient suivies d'actes, effectivement, par l'exemple. Sur le terrain et un petit peu en dehors, hein, s'il se laisse approcher. Après, quand il dit qu'il vient pour battre ses adversaires, il vient pas pour se faire défoncer les chevilles, etc. Ok, on doit le croire. Moi, je l'invite juste à regarder.
Prends toute la déclin en entier. D'après ce qu'il dit, c'est normal.
Je l'invite juste à regarder des images du football sud-américain dans les années 60. 70 même, notamment d'un joueur Pelé, mais d'autres aussi qui ont été d'extraordinaires joueurs brésiliens, et dans un football où il se faisait défoncer impunément parce que les arbitres sifflaient pas grand chose à l'époque et qu'il y avait quatre pauvres caméras de télévision sur les stades.
Il est protégé, quand même.
Voilà. Non mais il est protégé par le corps arbitral, et dans la mesure où il est protégé, moi ça me permet de basculer sur le fait de dire il en a fait beaucoup trop. Mmh. Et c'est un jeu aussi de contact, qu'il le sait et qu'il l'arrête de jouer cette pleureuse sempiternelle qui effectivement ça s'est transformé qui pense juste à oui les mecs ils veulent l'attraper. Il les provoque aussi beaucoup, qui pense à épurer un petit peu ses provocations, et qui se concentre un peu plus sur le collectif dans l'équipe, parce qu'il gagnera pas le ballon d'or sans ses coéquipiers.
Exactement. Et sans l'admiration des autres joueurs.
On va accueillir Aïssa, supporter du PSG au 32-16. Bonsoir Aïssa.
Aïssa, t'es avec nous?
Aïssa Mandi.
Ouais. Bonsoir.
Tu joues Aïssa Mandi là.
Alors Aïssa, toi t'es un petit peu en colère hein, à l'encontre de Neymar.
Non, du tout. Moi la seule chose qui me paraît quand même assez sympathique pour le coup, c'est qu'à un moment donné, on a Mbappé, champion du monde, 19 ans, qui a éclaboussé de tout son talent cette Coupe du Monde. Et au final, on voit qu'à 19 ans, bah, il a fait ce que Neymar n'a pas fait en pas mal de temps, donc à un moment donné, on va avoir la réalité qui arrive en tout cas au Paris Saint-Germain, c'est qu'en fait, la tête de gondole qu'il faut au Paris Saint-Germain, c'était pas Neymar, c'était Mbappé.
Non, mais Neymar, il acceptera jamais de
mais
ne
pas
être
la star du club. Aïssa, c'est pas...
Alors je suis excusez-moi, je me permets de couper la parole, je suis d'accord sur le fond, mais néanmoins, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a marqué en finale, c'est Mbappé. Alors après, s'il n'est pas capable, en tout cas, de faire, entre guillemets, cet effort intellectuel, de se dire, bon ben voilà, il y a un petit gamin de 19 ans qui arrive, qui éclabousse tout avec son talent, et en plus qui a été blessé, parce qu'on a appris ça dans les médias, qu'il a été blessé, et qui au final, c'est une Coupe du Monde quand même exceptionnelle.
Et c'est vrai.
Mais je pense que je tu trompes aussi, vous vous trompez aussi.
Je mettrai pas, je mettrai pas la confrontation Neymar Mbappé, parce que là, on va jouer la carte.
Non, non,
les individus qui vont se télescoper. Si Neymar comprend qu'il peut gagner avec le Paris Saint-Germain et Tuchel,
et puis surtout, Aïssa, je vais ajouter une chose, c'est que Mbappé, il a été coruscant dans une équipe qui était un collectif très fort. Ça,
ouais,
il faut
oui,
le dire. Et il a été,
fait,
c'est, mais attention à pas non plus trop, enfin voilà, trop le mettre en avant. S'il est encore jeune, il faut le protéger.
Non,
la vraie star du PSG, il y en a une. C'est la vraie star, c'est Edinson Cavani, c'est tout.
Alors, c'est la vraie star du PSG. Alors, la vraie star du PSG, pour moi, ça a toujours été Cavani. Moi, je suis un fan de Cavani, justement, par son flex, c'est quand même un joueur qui moule de maillot, et que on adore.
Par ses performances aussi.
Ah oui, non. Mais alors là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je faisais juste la comparaison par rapport à Neymar, Mbappé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut rentrer un petit peu dans les codes parisiens, entre guillemets, c'est-à-dire que Mbappé, c'est un pur produit de la banlieue parisienne. C'est un joueur qui a gravi les échelons assez rapidement, et maintenant qu'il est fait juste 6 mois à Monaco, quand il arrive à Paris, c'est un petit peu plus compliqué, il s'est un petit peu blessé. Mais force est de constater que la réalité, c'est que Mbappé, en 7 matchs confondu, il a
tu peux pas comparer. Aïssa, tu peux pas comparer parce que la France était une force collective.
J'attends, qu'est-ce qu'il veut dire Aïssa?
C'est un constat.
C'est pas comme si Mbappé,
lequel le constat exactement?
Le constat, c'est que quand même Mbappé a quand même sur cette Coupe du Monde effacé Neymar.
Ça n'a rien à voir.
Il joue pas à s'effacer l'un ou l'autre.
Et puis surtout, Mbappé a été très bon. Il a été brillant, mais il n'a pas porté l'équipe de France sur ses épaules. Et
Aïssa, tu sais mieux que nous.
Neymar a commencé sa compétition avec une préparation tronquée.
Il a été gigantesque. Faut arrêter de dire ça.
Ouais, non, mais
on n'a pas dit le contraire.
Attends, on va tous se laisser parler 2 minutes. Aïssa, tu penses que Mbappé crois qu'il a pas besoin de Neymar au PSG?
Ah non, j'ai pas dit ça.
C'est la question que je te pose.
Non, mais moi je vous réponds. Je dis pas ça. Je dis que Mbappé, au Paris Saint-Germain, la tête de gondole. Alors moi je suis d'accord avec vous sur
mais
le fait que
Cavani, mais moi,
non mais, je vous parle tranquillement. Donc est-ce que je peux justement exposer un petit peu mon point de vue?
Bon, pour résumer, Aïssa, pour toi, Neymar ne sera plus la star du club, ce sera Kylian Mbappé.
C'est bien ça. Mais complètement.
Bon. Merci beaucoup Aïssa, en tous les cas, de nous avoir appelés au 32-16. Allez, on passe à présent à Cristiano Ronaldo, le nouveau joueur de la Juventus de Turin, qui ne partira pas en tournée donc avec la vieille dame aux États-Unis. Ça vous étonne, ça, un petit peu? Il reprend l'entraînement le 30 juillet. Et à la Juventus Turin qui devait affronter un certain Real Madrid.
C'est normal, non?
C'est une question que je vous pose.
Il y a les congés de mondialistes. Ça me semble normal.
Je vais voir la liste là, on va voir combien on a de.
Bah, il y a beaucoup d'Italiens, tu sais, donc il y a beaucoup d'Italiens, donc c'est compliqué, tu vois.
Bon, bah Pjanic, il a pas joué avec sa sélection.
Non, il y en a pas.
Bosnie, voilà, Mandzukic, je l'ai dit, il y est pas.
Il y a beaucoup d'Italiens.
Et Mrecan, il était pas dans les. Si, il était dans les 23 Allemands.
Bonne question.
Même s'il y était, il sort au premier tour.
En tous les cas, en termes de merchandising, ça aurait pas été important.
Bah, il a besoin de ses congés comme tout le monde. Hein.
De l'emmener. Ok.
Ça se discute. Ouais. Après,
il a été éliminé rapidement.
De finaliste, c'est-à-dire qu'il est sorti début juillet. On est fin juillet maintenant.
Et François,
à la fin des vacances, ils partent
avec une saison éreintante.
Non, mais il a le mettre ça aussi.
On va excuser Cristiano Ronaldo. On va parler d'un autre mondialiste, c'est Rafael Marquez.
Sinon, t'envoies Nico Villas, hein,
qui a annoncé officiellement.
Il a les caleçons, hein, Cristiano.
Sa fin de carrière, une belle carrière quand même pour le Mexicain, passé par
5 phases finales
par Monaco également, et 5 phases finales également.
Trophée à l'appel
de Coupe du Monde.
Exemplaire
sur le terrain, ouais. Parce qu'ailleurs, on sait pas trop.
Ouais, bon.
C'est devenu en Russie le troisième joueur à disputer 5 phases finales après Karbaral et Matakis.
Qu'il a réalisé. Mais moi je me souviens de lui à l'AS Monaco. Je me demande si Ali a pas joué avec lui du coup, parce qu'il va pas le rajeunir. Ali, si tu nous
écoutes.
Il me semble que oui.
Nous en a parlé déjà.
Au début des années 2000, il y a un joueur qui prend sa retraite. Alors, il est un joueur défensif, donc peut-être qu'il avait le droit de jouer un peu plus longtemps que les joueurs offensifs, mais il joue 2 ou 3 matchs pendant cette Coupe du Monde. Voilà, chapeau
pour la carrière de Rafael Marquez.
Jonathan, tu sais ça peut-être, toi?
Il est au Mexique, mais le club m'échappe.
Il a fini sa carrière à Atlas.
À Atlas.
Atlas.
Voilà.
Quand tu sais pas, tu me demandes.
de Guadalajara, il me semble.
Exactement, Guadalajara.
C'est ça?
Un des clubs transcendés par Marcelo.
Exact. La LFP qui fait des émules à présent, messieurs, la Super Coupe d'Espagne entre le FC Barcelone et le FC Séville se disputera à Tanger au Maroc. C'est une bonne chose, ça, selon vous, ce sera la première fois, dans l'histoire.
On peut faire,
du
je
foot
m'en
espagnol.
Fous pas, et dire, on s'en fout.
Ça, c'est fait, c'est clair.
Moi, c'est la stratégie un peu de la Liga aussi, avec Javier Tebas de même si, sur le coup, je me demande s'il n'y a pas la fédération espagnole aussi qui est justement dans le coup. Mais, oui, c'est bien de donner toujours à d'autres. Le Maroc avait accueilli tu me disais qu'on copiait justement le trophée des champions. Et là, il voit un match aussi d'un super calibre. Ça avait été une finale, la Coupe du Roi 2018. Bon, ça a été une déculottée pour le FC Séville, mais ça avait été une super finale avec les adieux d'Iniesta, etc.
Et justement, François,
s'ils peuvent offrir du spectacle aussi aux Marocains, c'est parfait.
Anders Iniesta qui a débuté par une défaite avec son nouveau club au Japon. L'Espagnol a officiellement fait ses débuts avec le Vissel Kobe dans le championnat japonais. Il a remplacé Watanabe à la 59e minute. Il n'a en revanche pas permis d'éviter la déconvenue de son équipe à domicile, battu 3-0 par Shonan.
Il va manger de la bonne viande.
Ouais,
c'est bien.
Il va manger tout court même.
Ouais, c'est vrai.
Allez, on termine avec Antoine Griezmann, fan de basket, vous le savez, François, Jonathan. Eh bien, sachez qu'il a proposé la création d'une bague pour les champions du monde à l'image de ce qui se fait un petit peu en NBA.
Ah, ça c'est pas
bonne
mal,
ou mauvaise idée?
Ça c'est pas mal. Alors, c'est inspiré de ce qui se fait en NBA, enfin dans les sports américains. Moi, je trouve que j'adore l'idée. Je trouve ces bagues exceptionnelles. Je suis fan de NFL, donc je sais depuis longtemps à quoi elles ressemblent. Si la FIFA pouvait s'inspirer de ça, oui, parce que on leur remet une Coupe du Monde plus la médaille, mais la bague là, ouais, là je trouve ça vraiment extra. Ouais.
Allez, il est bientôt 22h, l'After Foot revient dans un instant sur RMC. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.